Espace, horizon inaccessible. Une émission présentée par Jean-Jacques Ibos chaque mois sur un aspect de la conquête de l'air et de l'espace. Aujourd'hui, épisode numéro 23. Dans l'émission précédente, nous avons vu des satellites dédiés à l'accès Internet, à la science, à l'astronomie et des projets relatifs à l'exploitation des ressources extraterrestres. Mais y a-t-il d'autres domaines plus inattendus dans le domaine spatial ?
Oui, et nous allons les découvrir. L'espace comme nation. Asgardia est le nom donné par un milliardaire russo-azerbaïdjanais, Igor Ashubeili, à son projet de nation résidant dans l'espace, installé dans des arches géantes en orbite basse, puis sur la Lune. Cette nation spatiale a été déclarée officiellement le 12 octobre 2016 à Paris. Elle prévoit de déployer un réseau de satellites donnant accès à Internet et de créer une flotte de vaisseaux protégeant la Terre des dangers de l'espace. Un premier nanosatellite, Asgardia 1, a été mis sur orbite le 12 novembre 2017 par une fusée américaine Antares au cours d'une mission de ravitaillement de l'ISS. Financé par son créateur, l'avenir dira si cette utopie a un futur. En 2017, la société revendiquait 148 000 membres. Espace comme lieu de mariage. La société japonaise First Advantage proposait en 2008 d'organiser des cérémonies de mariage en orbite. 5 personnes pour 1,5 million d'euros. Première union à célébrer en 2011. Projet perdu dans les nuages. L'espace comme cimetière. En 1981, un Américain de Salt Lake City, Joey Roberto, a créé une société funéraire spatiale. Pour 2 500 $, il proposait d'envoyer les cendres du défunt dans l'espace, larguées par une navette spatiale. Sa devise, quoi de plus beau que de passer sa mort parmi les étoiles? Rêve de bien des poètes ici-bas. Depuis 1997, après 2 premiers clients, Timothy Leary, le pape de la défense pop, et Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek, des milliers d'Américains ont payé 5 300 $ pour que leurs cendres soient mises en orbite autour de la Terre. Et 12 500 autour de la Lune, voire dans l'espace infini. Ils y sont envoyés à bord de fusées Taurus depuis la base militaire de Vandenberg en Californie en tant que charge annexe de mission principale. Celestis a créé en 2001 une filiale en France, l'autre rive, pour proposer ce service. En 2006, la sonde New Horizon a emporté les cendres de Clyde Tombaugh, le découvreur de Pluton. En 2012, la société Alcyon Space a fait placer en orbite un premier lot de capsules funéraires. Puis en 2018, elle a confié à une fusée SpaceX un nanosatellite de 10 cm de côté contenant les cendres d'une centaine de personnes. Cette prestation, facturée 2 500 $ par personne, est éphémère, les capsules se désintégrant rapidement dans l'atmosphère, créant une étoile filante. La société américaine Moon Express avait prévu, dans le cadre du Google XPRIZE, de faire atterrir sur la Lune en 2019 son module Lunar Scout, qui, en plus de sa mission scientifique, y aurait déposé des cendres. Mais la société a échoué dans cette réalisation. Le premier, et le seul à ce jour, humain inhumé ailleurs que sur la Terre, est un Américain, Eugene Shoemaker, dont les cendres ont été déposées sur la Lune par la NASA en tant que charge annexe de la sonde Lunar Prospector via la société Celestis le 31 juillet 1999. Eugene Shoemaker est le co-découvreur de la comète Shoemaker-Levy 9 avec son épouse Caroline et le Canadien Dandy Levy, comète qui s'est disloquée sur la planète Jupiter en 1994. La NASA a ainsi rendu hommage à celui qui aurait voulu être astronaute mais n'avait pas pu réaliser son rêve pour raisons médicales. La petite ville de Green River dans le Wyoming aux USA a transformé en son honneur une piste d'atterrissage en aéroport galactique destiné à accueillir d'éventuels aliens jupitériens. L'espace comme support publicitaire. Le fabricant de matériel de soudage Siaki publié en 1968 une brochure où il détaillait toutes ces machines utilisées pour construire le module de commande d'Apollo. Les astronautes du programme Apollo portaient des montres Omega. En juin 2018, Omega a sorti dans Time une publicité avec une photo de Buzz Aldrin sur la Lune. En octobre 2020, Omega commercialise une montre Speedmaster avec le logo du Silver Snoopy Award, créé au retour d'Apollo 13. Et en 2022, Omega s'est associé à Swatch pour créer la même montre Speedmaster, mais à un prix évidemment bien plus avantageux. Hermès crée une montre Arceau l'heure de la Lune. L'atterrisseur Beagle 2 de la mission Mars Express affichait les logos de sociétés qui avaient participé à son financement à hauteur de 16 millions de dollars. Elles espéraient que les retransmissions des images prises par la sonde leur feraient de la publicité. Mais Beagle 2 n'a pas réussi à déployer ses panneaux solaires et aucune image n'est parvenue à la Terre. Les stylos Mont-Blanc présentent en 2019 le Starwalker avec un spationaute stylisé arpentant l'espace en orbite autour de la Terre. Il existe aussi une montre Breguet la classique face de lune. Dans le domaine de la BD, Spirou assiste à une tentative de publicité sur la Lune. Dans le numéro 15 de ses aventures, Z comme Zorglub, son complice et adversaire perpétuel Zorglub envoie une flotte de fusées sur la Lune pour y écrire un message publicitaire visible depuis la Terre. Mais le projet étant géré par son armée de techniciens, le texte est écrit dans leur langage particulier où les lettres sont inversées et le Coca-Cola devient Acocaloc. Si Zorglub a échoué à faire voir une publicité sur la Lune depuis la Terre, le fast-food KFC a presque réussi l'inverse, montrer un message à Terre depuis l'espace. En l'occurrence, un immense panneau KFC avec la photo de son cuisinier, installé sur 8000 m² dans le désert du Nevada, opération réalisée en 2006 et photographiée par un satellite de Digital Globe. La start-up russe Star Rocket prévoit d'utiliser des CubeSats comme panneaux géants publicitaires. La chaîne de restauration Pizza Hut a placé, moyennant finance, son logo sur une fusée Proton qui est lancée en 1999, un élément de la Station Spatiale Internationale. L'entreprise The Pro édite en 2019 une publicité où l'on voit un astronaute sur la Lune portant une de ses revues. L'aéroport d'Amsterdam met dans les mains de Buzz Aldrin un sac de son shopping center. L'Opéra de Paris fait tomber une cantatrice de la Bohème dans les bras d'un astronaute en tenue spatiale avec cette légende « La plus belle conquête reste l'amour ». Dans un autre domaine, l'association Make-A-Wish, fait un souhait, qui collecte des fonds pour réaliser les rêves d'enfants malades, représente une petite fille couchée sous une couette sur laquelle est imprimé un costume d'astronaute. L'espace comme stockage d'archives. KEO, ce projet de 2001, consistait à envoyer dans l'espace, avec un retour sur Terre dans 50 000 ans, un satellite embarquant des témoignages des années 2000. Une plaque représentant les différentes ethnies humaines, un double hélice d'ADN, un diamant artificiel contenant une goutte d'eau de mer, un peu de sable et une goutte de sang humain, plus des CD contenant une partie des connaissances humaines. Projet non abouti. L'Arche Mission Foundation, un organisme non gouvernemental américain, a lancé en février 2019 un satellite emportant un disque de cristaux de quartz contenant une copie de l'encyclopédie en ligne Wikipédia et prévoit de créer une bibliothèque sur la Lune. Sanctuary, un directeur de recherche au CNRS, par ailleurs physicien et cosmologiste, a mis sur pied le projet visant à déposer sur la Lune, emporté comme passager d'un module lunaire qui sera envoyé par une fusée SpaceX, de nombreux documents, comme la Déclaration des droits de l'homme, des infographies, des données sur l'état de la planète, des photos d'humains, des règles de jeu de société, des photos d'œuvres d'art, un séquençage du génome humain, etc. Ces données sont gravées sur 10 disques de 9 cm de diamètre, chacun contenant 3 milliards de pixels. L'espace comme cave à vin. L'Institut de la vigne et du vin, installé à Bordeaux, a confié en novembre 2019 à la start-up Space Cargo Unlimited 12 bouteilles de Château Pétrus millésime 2000. 5000 euros la bouteille, à destination de l'ISS pour étudier les effets de la microgravité et d'environnement spatial sur les composants du vin. 320 sermons de vigne faisaient aussi partie du voyage. Au retour de la mission, en janvier 2021, Les sarments ont été replantés à l'Institut du vin à Bordeaux et le vin a été dégusté à l'aveugle en comparant une bouteille ayant voyagé à une autre restée à terre. Il a été trouvé, sur la bouteille revenue de l'espace, une couleur plus tuilée et un goût ayant évolué tout en étant bien évalué sensoriellement. Autre domaine, l'espace comme escroquerie. Profitant d'un texte de droit américain de 1862, le Homestead Act, Dennis Hope a revendiqué en 1980 la Lune, alors propriété de personne. Le tribunal de San Francisco lui ayant donné raison, il a créé la société Luna Rambassi et vendu pas moins de 1700 parcelles de 700 hectares à $16 pièce. Parmi les acheteurs, Ronald Reagan et Clint Eastwood, et les prix montent. En 1998, il fallait $25 pour s'offrir 700 hectares. Mais il n'est pas le seul sur ce créneau. Un Allemand revendique aussi la propriété de la Lune, donnée d'après lui à sa famille par Frédéric le Grand en 1756. En l'an 2000, les PDG des supermarchés géants a offert à chacun de ses 22 000 employés un hectare de Lune. Mais sans plaisanterie, a déclenché des grèves dans plusieurs magasins de la marque. Luna Rambassi ne s'est pas arrêtée à la Lune. Elle offre aussi 9 millions de parcelles sur Mars et 18 millions sur Vénus au prix de $22 l'hectare. Mais le traité de 1967 précise bien que l'espace ne veut pas faire l'objet d'une appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d'occupation, ni par aucun autre moyen.
Nous avons vu de nombreux domaines d'emploi des satellites. Peut-on voir des aspects plus techniques ?
Oui. Et ils sont nombreux. La fabrication des satellites. Devenue une véritable industrie, la fabrication des satellites a abandonné le mode artisanal. Airbus Defence and Space et OneWeb Satellite ont assemblé les premiers satellites sur une chaîne de montage à Toulouse, puis, depuis 2019, à Exploration Park, en Floride, où les satellites sont montés à la cadence d'un toutes les 8 heures, le cycle de fabrication étant d'une semaine et demie. Ceci pour alimenter la constellation OneWeb d'environ 2000 satellites, relayés par une quarantaine de stations au sol. Ces satellites sont conçus en réalité virtuelle et montés par des cobots. Propulsion des satellites. Au-delà de la classique propulsion chimique, d'autres voies sont mises en œuvre ou étudiées. Électrique. Elle consiste à ioniser un gaz, du xénon, en le chauffant fortement, et les ions positifs, massifs, accélérés à très grande vitesse, sont éjectés dans le vide, produisant une poussée de quelques millinewtons. Mais dans le vide, cela suffit à faire avancer un petit satellite, moins de 250 kg. La première sonde à avoir utilisé un moteur ionique est Deep Space 1. Lancée en 1998, elle est allée survoler deux astéroïdes, Braille et Borelli, en 1999 et 2001. Le satellite européen Smart 1, lancé en septembre 2003, a rejoint la Lune en 13 mois, propulsé par un moteur ionique. Il a commencé ses photographies de la Lune en janvier 2005. Le moteur israélien à effet Hall IEHT fournit une poussée de 15 mN pour une consommation de 600 watts. ExoTrail, associé à l'alliance New Space Factory, propose une propulsion électrique pour nanosatellites. La société française Comat Industry développe un moteur, le Plasma Jetpack, utilisant la technologie de l'arc sous vide, d'une durée de 10 microsecondes, qui arrache la matière et l'expulse à 60 km par seconde. Ce moteur de 800 grammes peut s'adapter sans difficulté sur n'importe quel support. Le développement de ce moteur est prévu jusqu'à fin 2022. Autre solution proposée par la société Trust Me, utiliser de l'iode solide à la place du xénon et supprimer la cathode, remplacée par un astucieux système de grilles chargées alternativement en positif et négatif, ce qui réduit la masse et l'encombrement, deux éléments clés pour propulser des nanosatellites. Le premier satellite à être équipé de ce nouveau type de moteur, nommé NPY-30-I2, est un chinois. Baikonski 1, lancé par une fusée Longue Marche 6, le 6 novembre 2020. Il a fonctionné 2 fois 90 secondes, le 28 décembre 2020 et le 2 janvier 2021, permettant de rehausser l'orbite du satellite de 700 mètres. En mars 2019, une société allemande a testé un micromoteur ionique, le Nano FEEP, volume 3 cm3. Autre moyen, l'éjection de lumière. Produite par un laser embarqué, elle fournit en continu une poussée de quelques millinewtons. Autre moyen encore, la voile solaire. Là, c'est la pression de la lumière solaire, s'exerçant sur une voile de très grande dimension, qui pousse le satellite. En 1998, Nersi Ravasi prévoyait de mettre sur orbite dans la nuit du 31 décembre 2000 au 1er janvier 2001, pour le passage au troisième millénaire, l'étoile de la tolérance, prototype de voile solaire qui serait visible de la Terre, ce qui n'a pas été fait. Des essais de déploiement de voile solaire ont été réalisés en 2004 par la JAXA, l'agence spatiale japonaise. Le premier satellite à propulsion solaire, Cosmos 1, devait être mis sur orbite par la société Planetary Society, tiré à partir d'un sous-marin soviétique par une fusée Volna le 21 juin 2005. Mais l'échec de la fusée n'a pas permis de placer Cosmos 1 sur l'orbite prévue, compromettant la réussite de cette mission. Gamma, une société française, va développer une voile de 74 mètres carrés, 50 fois moins épaisse qu'un cheveu. Elle sera lancée en octobre 2022 et guidée par un système de navigation lui aussi développé par Gamma, nommé Sextant. Un dernier moyen, le laser. L'astrophysicien Stephen Hawking a présenté le 12 avril 2016 un projet de nanosatellite poussé par des rayons de plusieurs centaines de lasers qui se situent à Terre, qui frapperaient des voiles ultra légères, qui se dirigeraient vers le système Alpha du Centaure, situé à 4,3 années-lumière, et ceci à 20% de la vitesse de lumière, soit 1000 fois plus vite que les fusées actuelles. La cible serait alors atteinte en 20 ans seulement. Stephen Hawking a déclaré en novembre 2017 que la Terre serait inhabitable dans moins de 600 ans, et que l'humanité devrait d'ici là trouver une autre planète pour s'y installer. Stephen Hawking est décédé le 14 mars 2018 à 76 ans. Atteint par la maladie Charcot, ses médecins lui avaient donné, à l'âge de 21 ans, 2 ans à vivre. Son livre, Une brève histoire du temps, paru en 1988, a été vendu à 10 millions d'exemplaires. Une autre approche pour fournir de l'énergie électrique aux satellites est celle en cours de développement par une université espagnole. En accrochant des rubans d'aluminium ultra fins aux satellites, ceux-ci se chargent d'électricité lorsque le satellite perd de l'altitude, permettant de recharger les batteries sans rien consommer. Encore une idée non suivie d'effet, la propulsion plasma. Robert Wingley, de l'Université de Washington, a imaginé le M2P2, Mini Magnetospheric Plasma Propulsion. Un champ magnétique est créé devant le satellite et un plasma d'hélium est injecté dans la bulle créée par ce champ. Les vents solaires auraient poussé alors cette bulle et le satellite à la vitesse de près de 300 000 km/h. Un autre moyen, un jet de nitrogène fait tourner une capsule, le Lightcraft, sur elle-même, à 6000 tours minute, puis un laser crée un plasma qui va propulser la capsule dans les airs. Plusieurs essais ont amené des capsules de 50 grammes à 22 mètres d'altitude, puis l'expérience s'est arrêtée là. Différentes solutions ont été étudiées pour propulser les fusées. La fusion nucléaire, qui est en développement sur un projet russe de remorqueur Zeus, le moteur à distorsion de temps, en contractant l'espace-temps, le moteur à antimatière, la fusion nucléaire, évidemment, et le moteur à plasma. Dès le début des lancements, a été étudiée la possibilité de rendre les satellites manœuvrables. Le 1er novembre 1963, l'URSS lance Polyot 1. Avec son look d'avion spatial, il était équipé de fusées ressemblant à des réacteurs, lui permettant de modifier son orbite. Il y aura une autre tentative, Polyot 2, avant l'arrêt du programme.
C'était Espace Horizon Inaccessible, numéro 23. Une émission présentée chaque mois par Jean-Jacques Ibos sur un aspect de la conquête de l'air et de l'espace.